Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance, pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur te convient. Par le biais de ce message, laisse ton esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voulons être comme toi, nous voulons être à ton image, nous voulons te ressembler, nous voulons être semblables à toi. Seigneur, pour que ce temps de jeûne soit béni par toi. Nous voulons nous consacrer, nous voulons te dédier toute l'année 2013. Donne-nous la force de faire ce jeûne. Donne-nous la force, Seigneur Dieu, de nous priver, de nous consacrer et de chercher ta face durant ce jeûne, Seigneur Dieu. Et de te ressembler pendant ces instants. Ô Dieu des cieux, à toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus.
Disons à tes pieds.
À tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée,
faisant
ce que tu veux.
Sonde mon cœur,
Seigneur, sonde mon cœur dans toute sa profondeur.
Mon désir est plus ardent
et de te plaire. Sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire.
Je veux être comme toi.
Je veux être comme toi, Seigneur.
Je veux te ressembler.
Je veux être à ton image. Je veux te ressembler, mon Dieu.
Je voudrais que ma vie te montre à tous. Combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme.
Seigneur, purifie mon âme. Tes yeux,
afin que je puisse voir comme tu vois et mes pensées comme tu penses. Je veux être comme toi,
Seigneur. Je veux être comme toi. C'est notre prière. Nous voulons te ressembler. Chanter comme toi,
réfléchir
comme toi.
Ô Seigneur,
ô Yahweh, aide-moi, je veux être comme toi.
Aimer
comme toi,
penser,
parler comme toi,
marcher comme toi, réfléchir comme toi. Seigneur,
ô Yahweh,
aide-moi,
je veux être comme toi, aimer comme toi. Réfléchis comme toi. Ô Seigneur, ô Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi, aimer comme toi. Réfléchis comme toi. Ô Seigneur, ô Yahweh, aide-moi encore. Nous voulons le dire encore. Je veux être comme toi.
Marcher
marcher comme toi,
penser
comme toi,
aimer comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh,
je veux être comme toi,
aimer
comme toi,
penser comme toi,
réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh. Seigneur, je veux être à ton image. Je veux te ressembler, parler comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi, marcher comme toi. Je veux être comme toi. Oh Yahweh, aide-moi. Oh Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre Seigneur? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, 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 amen. Nous allons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Seigneur, ce jeûne commence, garde-nous, fortifie-nous. Seigneur, dirige-nous dans l'exhortation que nous allons partager maintenant. Parle-nous par ta parole, enseigne-nous tes voies. Merci déjà pour les choses que tu nous as dites en ce qui concerne ton image. Et merci pour cette parole que tu as pour nous en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Dimanche dernier, nous avons commencé un petit rappel assez particulier sur le sujet suivant. Trois points sur la mentalité qui précède votre distinction en 2013. Amen. Trois points sur la mentalité. Ce thème que j'ai abordé est un rappel de certains sujets que nous avons abordés en 2012. C'est un rappel de l'enseignement sur être au bon endroit au bon moment. Et puis, le point qu'on va aborder aujourd'hui, il se retrouve dans, bien sûr, dans être au bon endroit au bon moment, mais surtout, il est un peu plus détaillé dans l'enseignement sur l'ordre divin. Donc, celui qui veut plus de détails, plus approfondir le sujet, il peut se procurer ces enseignements. Je dis trois points, et j'insiste que ces points ne sont pas exhaustifs. Ils ne sont pas les seuls qui nous aident à connaître la distinction de Dieu. Il y a des sujets comme l'humilité, que je n'aborde pas dans ce point, et d'autres éléments qui sont nécessaires pour être distingués par Dieu. Je cite ces trois points parce que le Saint-Esprit me les a mis à cœur par rapport aux choses que Dieu annonce en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en 2013. Donc, nous ressentons dans notre esprit que il risque, en tout cas fortement, de se lever des moments assez difficiles, financièrement, peut-être des mouvements, en tout cas beaucoup de choses. Et il est important de marquer notre identité en Christ dans de telles situations. Parce que nous appartenons à Christ, nous sommes au-dessus. Alléluia. Ou bien, nous sommes censés être au-dessus des aléas. Alléluia. Tout dépend de comment nous nous considérons, et tout dépend de comment nous nous positionnons. Dieu déclare qu'il t'élève. Dieu déclare que tu es au-dessus de tout. Dieu déclare que tu es distingué. Lorsqu'il dit que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire qu'il t'a mis à part. C'est une vérité de Dieu. Alléluia. Mais entre le fait que Dieu le dise et que tu le vives, il y a un petit gap. Et qu'il faut appliquer. Il y a des choses à faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc cette année, les choses sont en train peut-être d'augmenter. Cette année, il va y avoir une grande pression sur certaines personnes pour ne pas qu'elles prient. Des esprits de lourdeur spirituelle, certaines choses vont venir. Mais ceux qui seront à la position Dieu souhaite qu'ils soient vont être distingués. Ils seront différents. Cette année, beaucoup de personnes auront des difficultés financières, mais ceux qui appartiennent au Seigneur seront distingués, c'est-à-dire mis à part. Ça, c'est la parole que nous avons reçue en début d'année, lors du 31. Dieu a prophétisé qu'il allait faire une marque sur ses enfants. Il allait nous démarquer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous appartenons à un pays, le royaume de Dieu. Et vous savez, un ambassadeur ne subit pas, ou la circonstance de vie d'un ambassadeur n'est pas fonction du pays dans lequel il se trouve, mais c'est fonction du pays qu'il a mandaté. Quelqu'un me suit? Alléluia. Voilà. Si en Côte d'Ivoire, on a des difficultés à manger, que les États-Unis n'ont pas de difficultés à manger, l'ambassadeur, parce qu'il est en Côte d'Ivoire, il n'aura pas. Sa situation ne dépend pas de la situation de la Côte d'Ivoire, mais dépend de la situation du pays qu'il a envoyé. Vrai ou faux? C'est pas vrai? Voilà. S'il y a la crise dans un pays, l'ambassadeur, son salaire, son niveau de vie n'est pas décidé par la crise qui est dans le pays dans lequel il se trouve. C'est décidé par son pays d'origine. Amen, amen, amen. Or, la Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Tu es un ambassadeur. Donc, ta situation ne doit pas être fonction du pays dans lequel tu es envoyé en mission. Si la Côte d'Ivoire a la crise, toi, tu es un ambassadeur. André, vous ne croyez pas trop. Bon, si tu crois, regarde ton voisin et puis dis, excellence, son excellence. Parce que c'est un ambassadeur, son excellence. Excellence. Son excellence. Maintenant, l'excellence, comme tu as reçu l'excellence, dis oui. Amen. Amen. Mais celui qui est gardé, celui dont, qui vit la comme l'ambassadeur qui vit la situation de son pays, n'est-ce pas? Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, il est américain. Mais vous savez que tous les Américains en Côte d'Ivoire n'ont pas le même statut. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous citoyens du ciel. Mais parmi nous, il y a certains qui sont conscients et qui vivent leur état d'ambassadeur du royaume des cieux. Il y en a d'autres qui sont simplement des citoyens du ciel. Ça fait une grande différence. Est-ce que vous savez qu'un Américain qui travaille en Côte d'Ivoire, qui vit de la Côte d'Ivoire, il est Américain, hein? Ça veut dire, ça chauffe, il est sauvé. Son pays va venir le prendre. Mais s'il a construit une entreprise ici, que la crise arrive, il va perdre l'argent au même titre que les nationaux. Donc si vous êtes chrétien simplement, citoyen du royaume des cieux, que vous n'avez pas le mandat d'ambassadeur, si le pays est en crise, vous serez en crise. On va peut-être vous exfiltrer, là c'est le salut, tu es sauvé, tu vas au paradis. Mais avant de partir là, tu as perdu ta maison, tu as perdu tes biens, tu avais construit une entreprise qui faisait ceci. Mais quand les gens sont venus, ils ont cassé, tu as tout perdu. Comme tu es américain, on t'envoie un avion, on dit prends, monte, quitte la Côte d'Ivoire. Mais tu t'en vas sans rien. Là c'est un citoyen. Mais l'ambassadeur n'est pas atteint. Parce que tu as gratté l'ambassade. Tu as touché les États-Unis. Alléluia. Ça fait une différence. Amen. Donc, l'ambassadeur est américain. Les Américains sont américains. Mais l'Américain citoyen, l'Américain ambassadeur, ça fait différent. Donc, Dieu déclare que tu es ambassadeur. Mais si tu te considères simplement comme un simple citoyen du ciel, si la crise frappe, elle va te frapper même. Mais si tu rentres dans la dimension d'ambassadeur, on dit les prix augmentent. Toi aussi, on va augmenter. Parce que, est-ce que vous savez que les diplomates, il y a un indice. Plus le pays devient cher, plus on augmente leurs entrées. Et les ambassadeurs là, plus le pays devient instable, plus on augmente leur argent. C'est ça un signe d'ambassadeur. Parce qu'on est un citoyen simple, un Américain qui travaille ici. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Alléluia. Par exemple, c'est pourquoi quelquefois, bon, je sais qu'on apprend les flèches de l'ONU ici, mais ils savent souvent quand c'est plus la crise est intense, plus il y a plein de primes de risque, primes de risque de ceci, primes de risque. Donc, souvent même les gens, ils aiment ça. Si ça augmente. Alléluia. Si tu travailles dans la dimension d'ambassadeur, aussi longtemps qu'il y aura de l'inflation, des problèmes, aussi longtemps tu augmenteras. C'est ce qui te met au-dessus. Donc, les prix augmentent, mais toi tu montes. Mais ça, c'est une dimension spirituelle que tu dois voir réaliser dans ta vie naturelle. Dis, j'entre dans cette dimension. Alors, je ne remets pas en cause ta foi en Jésus, mais ta position en Christ. Tu es en Christ, mais il faut que tu évolues dans une dimension particulière. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Si un ambassadeur est l'ambassadeur d'un pays qui a des difficultés, quand tu vas à l'ambassade, tu sais que le pays a des problèmes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup d'ambassadeurs, il y a beaucoup d'ambassades. Mais on fait la différence. Et l'ambassade ressemble au pays. Voilà ses fonctions. Quand tu arrives en France, tout le monde est diplomate. Tout le monde est ambassadeur. Quand tu vois la voiture de l'ambassadeur, tu sais, tu peux savoir d'où il vient. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous êtes ambassadeur du royaume des cieux. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a mis à cœur, partager avec vous, pour que vous puissiez vivre de manière effective cette notion-là d'ambassadeur du ciel? et que votre situation ne soit pas liée à l'état matériel, à l'état de crise que traverse le pays. Vous êtes déjà chrétien, mais Dieu vous a déjà nommé ambassadeur. La Bible dit que tout chrétien est censé être ambassadeur de Christ. Maintenant, si l'ambassadeur n'a pas envie de se considérer comme ambassadeur et qu'il pleure, avec le pays qui pleure, là c'est son problème. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pleinement entrer dans cette dimension? C'est ce que donc je dis par ce thème. Trois points qui vont vous amener donc à vous distinguer, à être au-dessus du lot. Alléluia. Le premier point, nous l'avons étudié dimanche dernier, c'est quoi? C'est quoi? Renommer. Donner les noms. Voilà. Parce que le nom que vous donnez à une situation vous permet d'avoir l'ascendant sur cette situation. Si vous l'appelez d'un nom qui vous effraie, la situation va vous dominer. Si vous l'appelez d'un nom par lequel vous déterminez supérieur, ça va créer en vous des sentiments et des émotions qui vont vous donner l'ascendant. Alléluia. On a étudié cela dimanche dernier. Je vous exhorte vraiment à prendre de ces dés. Donc, vous avez des informations qui vous arrivent. On dit le prix du carburant est monté, le prix du gaz. Tout le monde va avoir plusieurs réactions. Donc, tu fais un calcul. Si le gaz augmente, c'est que le pain va augmenter. L'huile augmenter. Transport augmenter. Donc, quand tu as fini, quand tu vois ça comme ça, tu dis, ça te fait un tableau noir. Et ça peut créer en même temps un effet. En même temps, tu es triste. En même temps, tu dis, hey, qu'est-ce que les gens nous veulent ici en Côte d'Ivoire? Ils veulent nous tuer en même temps. Si tu as dit ça, tu seras vaincu. Tu es en Christ. Mais le pays va te avaler. Et les gens se demandent, mais où est ton Jésus? Je t'assure. Si tu raisonnes comme ça, tu commences à avoir peur. Et tu dis, quand on parle, on dit, tout augmente, putain, tu es là. Et il veut nous tuer. Il ne faut pas dire ça, on ne veut pas te tuer. Un chrétien ne parle pas comme ça. Pourquoi on veut te tuer? Amen. Ta situation ne dépend pas des augmentations qu'ils disent là. Tu dois le sentir en toi. Et c'est ce que je vous ai expliqué dimanche dernier. Comment ça se fait? Premièrement, comme on te parle d'augmentation, tu dois donner un nom. Tu dois appeler la circonstance parce que Dieu a donné ce privilège aux hommes de nommer les choses. Alléluia. Si vous n'avez pas suivi le message du dimanche dernier, je vous en prie, prenez le CD. Et prenez le CD sur l'enseignement sur la porte des territoires. Je dis comment nommer les circonstances. C'est très important de savoir appeler les choses. De dire, par exemple, la semaine dernière, là, dans cette semaine-là, mon épouse est venue me dire, on avait fait une commande de ces matériels pour l'église. Et puis, les gens sont partis livrer la commande, on ne sait pas où. Et c'était des millions, quoi. Donc, elle est venue me dire, c'est une information. Ça m'a attristé en même temps. Mon visage s'est serré. J'étais fâché, je voulais mettre ça sur elle. Elle me dit, vous ne bougez pas. À qui vous donnez le... Et puis, je me suis rappelé du message du dimanche dernier. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle t'annonce? Une nouvelle qui n'est pas bonne. Chaque information que vous recevez transporte une charge émotionnelle. Et la charge émotionnelle, soit vous assujettit, ou c'est vous qui prenez l'ascendant. Donc elle me donne l'information qu'apparemment on est en train de perdre des millions. Parce qu'on ne sait pas où le colis est parti. On doit le mettre dans le bateau, il devait arriver à Abidjan. Et l'église a déjà payé. On ne sait pas. Donc ça c'est une information. C'est pas une bonne nouvelle. Je suis attristé. Vous savez, déjà je suis vaincu. Et puis je me suis calmé. Je me suis rappelé du message. Parce que la colère, l'anxiété sont la preuve que vous êtes dominé. Rappelez-vous, Dieu vous a créé à son image pour dominer. Si vous décidez par exemple d'être de bonne humeur, vous vous levez, on vient vous dire, voici le prix du pain. Il a monté de 100 francs. Que vous devenez triste, la nouvelle vous a dominé. Parce que vous-même, vous avez choisi d'être dans la joie, mais une information vient décider de ton humeur de la journée. Dieu dit, tu es contrôlé. Celui qui domine, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta joie. Tu pleures quand tu as envie de pleurer, tu ris quand tu as décidé de rire. Ça, c'est contrôler la situation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, ce que j'ai fait, quand je me suis souvenu du message, Dieu me dit, mais toi, tu prêches, il faut vivre ce que tu dis. Il dit, c'est vrai, pourquoi je suis en colère? Je me suis calmé d'abord. Puis j'ai dit, cette situation chérie, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai changé le nom. Je dis, cet argent qui semble perdu va glorifier le Seigneur. Comment? Je ne sais pas. Ce que j'ai dit, c'est pour la gloire de Dieu. Le lendemain, elle vient, elle dit, ah, le comptable de l'église m'a appelé. Elle dit, elle comprend pas, c'est un achat qu'on a fait depuis 2 mois. Hein. Elle dit, je comprends pas, l'argent n'est pas sorti du compte, l'argent n'a jamais été débité. Donc on n'a rien perdu, tout est pour sa gloire. Je dis, voilà, tout est pour sa gloire. Donc tranquillement, on peut faire la commande. Mes amis, prenez l'ascendant. Donnez le nom aux choses. On t'annonce la nouvelle, tu dis c'est pour sa gloire. On t'annonce que Lazare veut mourir, tu dis dors. C'est comme ça on fait. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais ça ne suffit pas. C'est très puissant, mais ce n'est pas suffisant. Donner un nom, c'est dire. Quand vous lisez le livre de la Genèse, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et puis après, il dit, Dieu fit la lumière. Il a dit, Dieu dit qu'il y ait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qu'il y ait une étendue qui les sépare. Le verset qui se dit, Dieu fit. La Bible continue encore, Dieu dit, créons l'homme. Dieu dit qu'il va faire un homme, faisons l'homme à notre image. Et puis après, il dit, après, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Si vous lisez le livre de la Genèse, il y a toujours un moment où Dieu déclare et il y a le moment après où il agit. Donc, la déclaration, dire un nom, c'est une déclaration. Reformuler les choses, les appeler du nom qui vous arrange, c'est une déclaration. Mais si vous vous limitez aux simples déclarations, vous risquez de rester dans le rêve, dans les cris occultes, et de manière concrète, la vie va vous créer des problèmes. Alléluia. Mais il faut commencer par la déclaration. Donc, dites, je suis un champion. Amen, amen, amen. Et ça, c'est le nom. Donc, quand tu dis, je suis un champion, tu t'appelles d'un nom favorable. Quand tu dis, je vais triompher de cette situation, tu donnes un nom, tu dis, je domine cette situation. C'est comme ça que tu parles. Il faut parler comme ça. Quand tu commences à parler, tes émotions, tes sentiments, ton esprit prend l'ascendant. C'est-à-dire, tu commences à regarder les problèmes de haut. Et c'est un peu plus facile maintenant de les aborder. Mais quand tu es effrayé face au problème, quand ton cœur bat, quand tu trembles, tu dis, docteur, tu peux me dire toutes les maladies, mais il ne faut pas que ça commence par S. Si tes femmes viennent dire sida, tu es paralysé. Tu dois avoir un autre langage. Tu dois te dire non, ça c'est le nom que vous donnez. Moi j'appelle ça petit palu. Ça commence à créer une certaine disposition. Et c'est là que tu vas recevoir l'action à faire. On vient t'informer, c'est un cancer. Le frère Sylvain qui a perdu son épouse, Léonine, ce sont des gens de foi, je les aime beaucoup. Il y a quelques années, notre frère Sylvain avait un cancer. À la gorge. Il est venu me voir. Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. On dit que ça, là, ça va finir avec... Mais lui, non, c'est pour la gloire de Dieu. Il est même venu à l'église la chanter et danser pour la victoire. Mes amis, le cancer a disparu. Le cancer a disparu. On dit, ouais, non, il y a un peu mal. On ne dit pas cancer. Parce que le nom cancer, là, quand tu entends ça, ça te cancérise en même temps. Tu as froid, tu es glacé. Donc, une fois que tu es glacé, tu ne peux plus le terrasser. Amen. Une fois qu'il t'a glacé, l'information te glace, tu dois attendre de te réchauffer d'abord, avant de l'attaquer. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, hein, il a commencé à marcher sur l'eau, sur la parole de Christ. Quand le vent se levait, la Bible dit, il a eu peur. Quand son être était glacé, la parole de Dieu n'a plus eu d'effet. La déclaration n'a de l'effet que tant que vous avez l'ascendant. Mais quand vous commencez à tétaniser, vous perdez votre pouvoir. Ce que Dieu vous a donné commence à geler en vous. Il faut reprendre le dessus en donnant les noms, en faisant des proclamations. Vous remontez votre esprit et puis maintenant vous agissez. Donc la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et puis après il a fait. Maintenant qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça le deuxième point. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le deuxième point. Lui, après la déclaration, après la proclamation, deuxième chose à faire, il faut mettre de l'ordre dans votre vision et dans vos projets. Il faut les positionner, il faut les écrire clairement. Il faut mettre de l'ordre dans vos espérances. Il faut mettre de l'ordre dans tes espérances. Toute la formulation de la deuxième clé, c'est mettez de l'ordre et investissez votre temps, votre argent, votre potentiel dans ce qui est prioritaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Mettez de l'ordre dans une chose qui est encore virtuelle, qui n'est pas encore arrivée. Mettez de l'ordre dans vos rêves. Mettez de l'ordre dans vos espérances. Ce matin, je n'ai pas prévu parler là-dessus, mais je suis revenu là-dessus. Le Saint-Esprit m'a conduit à revenir sur la notion du rêve. Dis avec moi le rêve. L'espérance. Vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas être dans une victoire que vous n'avez pas plus ou moins visualisée, vue dans votre esprit. Vous devez... Dis à vos voisins, apprends à rêver. Rêver, dis rêve. Souvent la réalité, les circonstances viennent vous gangréner et vous amènent à ne plus espérer. Vous arrivez à un moment donné où toutes vos pensées sont focalisées sur le quotidien. Comment manger à midi? Comment manger le soir? Comment mettre mes enfants à l'école? La rentrée? Comment? Et tu n'as même plus le temps de laisser ton esprit rêver. C'est Dieu qui a créé le rêve, c'est pas le diable. L'homme doit rêver. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, fille de Dieu, tu ne rêves plus. Enfin, tu rêves plus. Le concret, la réalité a paralysé tes espoirs. Toutes tes pensées sont là. Comment vais-je m'en sortir? Dieu travaille à partir du rêve. Mes amis, je n'invente rien. Lorsque l'apôtre Pierre parle de l'arrivée du Saint-Esprit, voilà ce qu'il dit. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous savez, dans ce même texte, il annonce que les derniers temps vont être très difficiles. Et voilà ce qu'il dit à ses enfants. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, quoi? Dites avec dynamisme, vous ne connaissez pas la Bible. Vos fils et vos filles, les jeunes gens auront des... Les vieillards auront des... Donc le Saint-Esprit va venir donner des songes. Si les songes ne sont pas utiles, pourquoi le Saint-Esprit va se balader pour donner des songes? Et un songe, ce n'est pas le concret. Il te fait rêver. Et vous savez pourquoi il est dit aux vieillards des songes? Ce n'est pas les vieillards par rapport à l'âge. C'est ceux qui sont fatigués. Le Saint-Esprit vient dire à ceux qui sont fatigués, qui n'ont plus de force, que quand même rêve. Le vieillard, c'est celui qui ne sait plus marcher, qui ne sait pas comment il va s'en sortir. Dieu dit, tu veux t'en sortir? L'esprit a été répandu sur toi. Rêve, continue. Espère quelque chose. Pourquoi? Hébreux chapitre 11, verset 1 définit la foi ainsi. La Bible dit, or la foi est la ferme assurance de ce qu'on fait quoi? De ce qu'on... Mais le mot espérance là, c'est quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de foi sans espérance. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas d'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est une chose qui n'est pas réelle dans le présent. L'espérance, c'est une chose qui est à venir. L'espérance, c'est quelque chose que tu n'as pas encore. On parle d'espérance quand tu n'es pas capable de posséder ce à quoi tu rêves. L'espérance, c'est un rêve. Dieu te dit que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Si tu enlèves l'espérance, il n'y a pas de foi. Il y a 5 éléments dans la foi. L'espérance, la ferme assurance. Alléluia. La démonstration après de ce qu'on n'a pas encore vu. Voici la définition de la foi. Hébreux 11, 1. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, elle commence par l'espérance. Et l'espérance, ce n'est rien d'autre qu'une forme de rêve. Si tu as les moyens de t'acheter une voiture, tu n'espères pas acheter la voiture, tu dis, je vais acheter la voiture. Ce n'est pas de l'espérance. Ceux qui savent qu'à 18h, ils vont manger là. Est-ce que tu espères manger à 18h? Quand on va arrêter le jeûne, tu n'espères pas? Tu dis à 18h, quand je vais arrêter mon jeûne, c'est clair quoi, c'est pas une espérance, c'est un fait. On parle d'espérance lorsque l'éventualité ou la réalité de la chose n'est pas encore manifestée. La foi commence dans le rêve. Or, vous savez, si vous n'avez pas la foi, vous ne verrez aucun miracle. Vous ne verrez pas de transformation. Vous ne verrez, les choses, rien ne va changer. Tu sais pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu ne veux pas des miracles? Parce que tu ne rêves pas. Tu ne penses même pas. Tu rêves pas. Tu es trop dans le concret. Il faut être dans le réel. Mais il y a une place pour le rêve. Même tes nuits, même tu ne rêves plus. La nuit où on dort, Dieu même t'oblige à avoir des rêves. Toi, ce sont des cauchemars qui arrivent. Quelles sont ces histoires? Parce que l'espérance, ce n'est pas un cauchemar. Il y a des cauchemars aussi. Ce n'est pas des songes, ça. Ce sont des cauchemars. Et tu vois la guerre, le sang, les trucs comme ça. Tout ça, tu vois là. C'est pas bien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à l'aigle qui est à côté de toi, rêve. Et vous savez, c'est une des caractéristiques de la face de l'aigle. L'aigle voit loin. C'est ça le rêve. L'aigle qui vole, il voit loin. Tu dois voir loin. Ça veut dire quoi voir loin? Tu dois avoir plus ou moins une idée de toi dans 40 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Comment tu te vois dans 20 ans? Qui sérieusement n'a jamais pris le temps, disons-nous, pas jamais pris, en tout cas ces temps-ci là, il pense très peu à ce qui sera dans 20 ans. Ceux qui pensent très peu à ce qui seront dans 20 ans, levez la main. Non, moi je vais être honnête, c'est avant-hier, je me suis rappelé que j'avais commencé à oublier, je devenais trop réaliste. Oui. Et je me suis assis avec mon épouse, j'ai dit, oh chérie, on est en train de se détourner du rêve, on rêve plus, on rêve plus. Le quotidien est en train de nous rattraper. Le quotidien et les charges quotidiennes sont en train de prendre le devant. Quels que soient les problèmes de la journée, quel que soit le quotidien, il faut que vous ayez une part pour rêver. Vous devez donner un petit temps pour vous permettre de pour vous autoriser. La réalité, c'est la réalité. Vous allez la vivre de toute façon. Il n'y a pas à vous presser, elle est là. Amen. Donc, il ne faut pas courir. C'est-à-dire, c'est la réalité là. Quand tu as fini de rêver, elle va être là. Mais au moins, commence par rêver. Donc, trouve un temps pour le rêve. Trouve un temps pour imaginer ton fils. Trouve un temps. C'est la matière première de la foi. Le rêve n'est pas encore le réel, mais le rêve est le début. C'est ce que je suis en train d'expliquer, que si tu ne prends pas le temps d'imaginer ta galère actuelle, la galère actuelle, tu as bien envie que ton fils aille faire l'université. Donne-moi une université. Harvard, MIT. Il y a des personnes qui pensent, ils ne pensent même pas à ça. C'est-à-dire que là où il est là. Et tout ce à quoi il pense là. Comment il va manger? Comment il va dormir? Même dans la faim, mon frère, si tu veux que Dieu te sorte de là, commence par changer les choses dans ton esprit. C'est-à-dire, tu as la galère, tu ne sais pas comment tu vas manger à midi, et puis tu commences à dire, oui, dans 20 ans, bon, il ne faut pas les dire ça aux gens, parce qu'ils vont t'attaquer pour rien. Les rêves, on n'en parle pas. L'erreur de Joseph, c'est d'avoir parlé de son rêve à ses frères. Le rêve, vous le gardez pour vous. Vous n'allez pas discuter de ça. Moi, dans la vie, mes enfants iront à MIT, à Harvard. Fais attention. Fais attention. On ne parle pas d'un rêve. On le garde pour soi. Mais on rêve. On rêve. Alléluia. Et tu commences, tu dois penser. Tu dois c'est vrai, je viens d'avoir un enfant. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il sera dans 20 ans? Seigneur, qu'est-ce qu'il sera ceci? Où fera-t-il ses études? Où fera-t-elle ses études? Moi-même, comment je me vois? Est-ce que j'aurai une maison ou bien j'aurai plusieurs maisons dans les quartiers? Mon entreprise que je vois, je suis en train de faire le commerce de paille. Dans 20 ans, ça sera comment? Ça sera le même petit magasin qui est sur la rue là? Est-ce que je commence à rêver, je vois des boutiques partout? Sur les Champs-Élysées, j'ai mon magasin. Est-ce que tu as déjà vu? Tu as déjà imaginé ton magasin sur la... Tu vois, tu rêves même pas à tout ça. Mais tu es dans le réel. Alléluia. Les gens se moquaient souvent de moi, me disent, parce que Sanogo c'est un rêveur. Mais le rêve devient toujours vrai. Je vous ai dit, le chapiteau, j'y pense, je rêve à ça depuis qu'on a commencé. Et c'est maintenant que je réalise que j'ai rêvé. Parce que le rêve, quand il commence à devenir réalité, quelquefois tu oublies que tu as pensé à lui. Si vous connaissez dans le ministère Message de Vie, on a trois ministères. Il y a un qu'on appelle l'action prophétique, l'action missionnaire et le troisième groupe de messages divins, on appelle la tente. Tente, T-E-N-T. On pensait à une tente, la tente du réveil. Depuis qu'on a commencé, Dieu m'a dit qu'il allait avoir une tente où Dieu allait faire un réveil spirituel. Dans l'enseignement sur le tabernacle. Donc je pensais tente. Maintenant, les concours des circonstances. Moi-même, si je devais faire ces travaux, dans ma pensée, il y a 2 ans, je n'aurais pas fait un chapiteau. Mais Dieu va agencer les choses. Et je vais me retrouver là. Et c'est quand je rentre dans le chapiteau, je me souviens. Dis, souviens-toi. C'est ton rêve qui est devenu réalité. Il dit, ah, mais tu as accompli tes promesses. J'avais oublié cette affaire des tentes. J'avais oublié que je parlais d'une tente du réveil. J'avais oublié que quand on parlait d'adoration dans sa présence, je voyais un tabernacle de David où on allait adorer le Seigneur. J'avais oublié ça. Mais j'avais rêvé un jour. Tu n'as plus de rêve. Dieu ne sait plus ce qu'il va faire. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? La foi, donc, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut d'abord espérer. Il faut d'abord espérer. Mais on n'espère pas n'importe quoi. Amen. Dimanche prochain, à cause du temps, je vais revenir, je parlerai. Parce que, non seulement il faut espérer, mais ce sont vos espérances que vous devez ordonner. Donc, avant de mettre de l'ordre, il faut d'abord espérer. Ce sont vos espérances, ce que vous voulez voir. Donc, l'exercice qu'on va faire pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, c'est pas la peine d'espérer jusqu'à 40 ans. On va aller doucement. Est-ce que vous avez une espérance pour fin 2013? Qui a une espérance pour fin 2013? Bon, comme on dit, on ne partage pas les rêves, mais qui veut nous dire un peu quand même? Qu'est-ce que moi je vois en fin 2013? Tu vois, quand je me suis posé la question hier, j'ai vu que c'était confus dans ma tête. Qu'est-ce que je vois? Non, je vous dis ce que je me dis à moi. Hein. C'est ma vie, c'est de ma vie je vous parle. Je me suis rendu compte que j'ai commencé l'année, j'étais tellement préoccupé à comment on va organiser le programme, comment on va faire ceci. Pour l'église, j'ai vu fin 2013. Mais je me suis rendu compte que pour ma maison, je n'ai pas vu fin 2013. Je me suis rendu compte que j'étais tellement occupé dans l'œuvre, à m'occuper de tout, que je n'ai jamais rêvé, je n'ai pas pris le temps d'espérer pour mon fils et mes enfants dans 20 ans. Je n'ai jamais vu clairement. Bon, pas jamais, pardon, non, j'ai déjà vu. Mais c'est d'un temps, je n'y pensais pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Et 2013, je dis, ah, je n'ai pas plus le temps de voir quelque chose. Il faut que tu vois. Il faut que tu penses. Il faut que tu puisses dire à Dieu, voilà ce qu'il a fait. C'est pourquoi, si tu veux être dans la victoire, il faut te voir dans la position de victoire. Quand Dieu va te donner la victoire, quand tu seras au-dessus de toutes ces crises-là, que seras-tu en fin d'année? Quelle est ta situation approximative? Spirituellement, matériellement, familialement, professionnellement, as-tu un rêve? Alléluia. Est-ce que tu vois quelque chose? Maintenant, une fois que tu as fini de voir ces choses-là, ce qu'on va étudier dimanche prochain, c'est qu'il faut l'ordonner. Je tire ça de quoi? Passage de Marc, chapitre 6. Quelqu'un est-il avec moi? Donnez-moi un bon amen de vainqueur. Dans le livre de Marc, chapitre 6. Et dans Jean chapitre 6 aussi, dans Matthieu, Jésus est venu un jour, il y avait les disciples. Et puis il leur a dit de faire un rêve bizarre. Il y avait une grande foule qui était là. Il dit, nourrissez-les vous-même. Il leur a donné un objectif. Et les disciples lui ont dit, Seigneur, cet objectif est inatteignable. Le rêve, pourquoi vous empêchez de rêver? Parce que justement les rêves sont des choses inatteignables au vu des choses que vous possédez dans le présent. C'est ça le rêve. Jésus leur dit, nourrissez la foule. Et vous savez, l'enseignement de la multiplication des pains et des poissons est tellement profond. Moi, chaque jour, je m'assois devant ce texte-là. Je dis, Jésus, ce que tu m'apprends. Mes amis, Jésus est grand. Jésus, c'est un maître. Jésus, ah non. Ce qui nous révèle la Bible, frère. Ce livre-là, ce qu'il t'explique de la vie. Et dans ce passage, Jésus nous parle. Il dit aux disciples, nourrissez la foule. La Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. La Bible dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc près de 10 000 personnes. Et puis il dit aux disciples, allez chercher ce qui reste, ce que vous avez. Il dit, mais même si on trouve 200 deniers, on ne peut pas nourrir tout le monde. Il dit, allez-y. Ils arrivent, ils disent, nous avons 5 pains, 2 poissons. Les 5 pains, 2 poissons, c'est ton salaire actuel. Les 5 pains, 2 poissons, c'est ta réalité actuelle. Par rapport à ton rêve. Donc, on te dit, rêve, ton enfant va aller à MIT. Mais en ce moment-là, toi, tu n'arrives même pas à manger tous les midis. Ce que tu as, où tu manges le matin seulement, là. Comment on dit, comment on appelle ça, là? Quand on mange une fois et puis c'est fini, là. En ce moment-là, tu vis en mort subite. Mais ce qui te fait manger en mort subite, c'est quelque chose pour Dieu. Dis, Seigneur, je suis à la situation. Bon, comme on change de nom maintenant, là, on ne dit plus mort subite. On dit, je suis à la situation de vie subite. Subitement, je vis. Donc, parce que, premier point, n'oublie pas qu'on change de nom. Or, mort subite, c'est pas intéressant, là. Voilà. Donc, tu nommes la situation. Je n'ai plus mort subite, c'est la vie subite. Seigneur, je suis en situation de vie subite. Tu dis quoi? Il te dit rêve. Ah bon? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais Seigneur, je ne me suis même pas encore sorti. Attends d'abord que j'ai un peu d'argent pour manger. Ok. Mais dans 20 ans, où ton fils sera? Et je pense à quoi? Nous, les gens qui vivons avec la vie subite, comment on peut? Il dit, mais ton enfant sera quoi? On peut faire quelque chose, non? Alors, tu te laisses aller. Ah oui, c'est vrai. Hein? Il dit, qu'est-ce que si profondément, bon, il te dit, bon, si tu avais l'argent, si tu avais les moyens, qu'est-ce que tu aurais fait pour ton enfant? Ah, Seigneur, là, je l'aurais mis à avade. Hein? Il dit, ok, c'est ton rêve. En réalité, tu veux qu'il soit avade. Mais comme tu n'as pas l'argent, tu t'interdis de voir ça. Alors, vois, sans que tu, avant que tu aies l'argent. Vois-le. Autorise-toi. Oui, alors j'imagine mon enfant avade. Ok. Mais Seigneur, tu sais, je n'ai pas d'argent. Hein? On dit, oui, ça, ce sont tes 5 pains de poisson. Et tu t'autorises et puis tu commences à écrire les choses. Il faut que tu les écrives. Quand les disciples ont amené les 5 pains et les 2 poissons, Jésus a dit ceci. Et c'est là le message du dimanche prochain, la suite du point 2. Il dit, la foule qui est là, là, ça veut dire votre objectif de nourrir cette foule, ce groupe de gens, faites-les asseoir en ordre, par rangée de 50 et de 100. Faites-les asseoir. Autrement dit, votre rêve. Parce que leur rêve, c'était de nourrir ça. Ton rêve, c'est de mettre ton enfant dans tel endroit. Ton rêve, c'est de construire ceci pour tes parents. Ton rêve, c'est d'avoir ça. Il dit, ton rêve, là, fais-le asseoir. Mets de l'ordre. Ne t'interdis pas. Positionne les choses. Donc, les disciples ont fait asseoir la foule sans avoir la nourriture pour les nourrir. Donc, si la nourriture ne venait pas là, ils allaient dire quoi? Vous allez, les gars, ils disent, vous, là, on était tranquilles. Vous êtes venus dans la camp nous asseoir. On s'est assis, là, et puis on fait quoi? Nous, quand vous dites, les gars, asseyez-vous, sinon personne ne va manger aujourd'hui. Toi, rangez de 50. Oh, il y a 5 pains, 2 poissons. Rangez de 100, placez-vous, tout le monde est en ordre. On dit, maintenant, allons-y. Alléluia. Mets de l'ordre. Écris. Pour 2013 déjà, d'ici la fin d'année, je rêve, je me vois spirituellement comme ça, je vois ceci. Et puis tu organises. Maintenant, je vais te dire dimanche prochain, en fait, comment on les positionne par ordre de priorité. Le deuxième point, c'est en fait investir dans ce qui est prioritaire. D'abord, et je vais expliquer dimanche prochain, c'est quoi là? Comment on les classe en fait? Parce que tous tes rêves n'ont pas la même position de priorité. Mettre de l'ordre, faire asseoir tes rêves, c'est les classer par groupe, par ordre d'importance. Maintenant, l'importance n'est pas forcément ce que tu estimes être important. Il y a des choses que Dieu estime être importantes que toi, tu estimes secondaires. Or, en vérité, elles sont importantes. Dimanche prochain, tu seras d'accord. Elles sont vraiment importantes. Alléluia. Et quand tu les détectes, la vérité, c'est que c'est dans le présent. Si pour toi, c'est tellement important que ton enfant aille à Avad, aujourd'hui où tu as 5 pains, 2 poissons, où tu as la vie subite, chaque fois que tu reçois 500 francs, mets 5 francs de côté. C'est juste un acte de foi. Je vais te montrer les versets après. Ce à quoi tu rêves. Et tu as eu la confirmation que Dieu est dans ce rêve. Parce qu'il y a des rêves qui ne sont pas de Dieu. On va voir que Dieu est dans ce rêve. Maintenant, toi, tu rêves, c'est pas, tu vas aller faire quoi? Un truc bizarre, quelque part. Tu n'es pas dedans. Donc, on va sanctifier les rêves. Alléluia. Une fois que ton rêve est sanctifié, tu l'as fait asseoir. Il est posé. Il est consistant. Il est vrai. Il est réel. Il n'est pas réaliste. Il est juste. Parce que réalisable, tu vas penser que ça dépend de tes moyens. Tes moyens ne peuvent pas le réaliser. Il y a un acte de foi que tu poses. Et c'est ce acte-là qui commence à déclencher le miracle de la multiplication. C'est cette petite chose. Ça peut être 5 francs, ça peut être 10 francs. Mais c'est peut-être que dans ton petit sac à la maison, chaque jour, tu sèmes pour le futur de ton garçon qui a 2 ans. Tu mets ça à part pour lui. Le problème n'est pas la quantité. Le problème est ta foi. Juste ça, ça suffit pour que Dieu change la situation. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Vous êtes des gens d'exception. Dieu a dit, il a dit, et après il a fait. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez entendu? Commencez à arranger. Dimanche prochain, gardez votre rêve, mais écrivez-le quand même. Tout le monde vient à sa feuille, et puis là-dessus tu marques. Et je vais commencer à donner des points. Tu vas commencer à les classer. Et tu vas voir, l'investissement n'est pas forcément financier. Il y y a l'investissement du temps, il y a l'investissement de juste la pensée à un moment donné. C'est cet environnement-là qui enclenche un certain miracle dans ta vie. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer son Saint-Nom? Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que tu rêves. Ce matin, le Seigneur se rend compte que depuis quelques années ou depuis quelques temps, la réalité est rattrapée et tu es là du matin au soir. Tu te soucies que comment résoudre les problèmes de la journée, comment résoudre tes problèmes de foyer, comment régler telle chose, comment régler telle chose. Et au fur et à mesure, la réalité a fini par te faire oublier ce que tu voyais. La réalité a fini par te faire oublier. Jésus, Dieu pouvait dire ceci à Habacuc. Écris la parole, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la, mais écris-la. Fais ceci, mon frère, obéis à la parole de Dieu. Même si ton rêve est erroné, ce n'est pas grave, écris quand même. Le Seigneur sanctifiera. Mais le fait d'écrire, ça va t'aider déjà. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce divine. Merci pour ta parole. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à ton Seigneur, Seigneur, restaure en moi l'espérance. Dis, Seigneur, restaure en moi l'espérance. Restaure en moi l'espérance. Restaure mes espérances. Restaure en moi l'espoir. Prie, ma soeur, prie pour que tu continues. Prie pour que Dieu restaure en toi le rêve. Prie pour que Dieu renouvelle l'espérance. Permets à ton Dieu de commencer à travailler avec quelque chose que tu lui donnes. Élève la voix vers lui. Invoque-le. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci, Père, pour tes hauts faits. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le roi des rois? Alléluia! Gloire à Dieu!
Motivé par cet enseignement, désires-tu plus? Rendez-vous à la librairie ou à l'espace discographique proche de chez toi. Pour d'autres compléments d'information, contacte-nous au 22 41 29 80 02 61 30 63 ou écris-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous t'invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com ou rejoins-nous à l'église Vase d'Honneur. Merci et demeure béni.